Bonjour, je suis Simon Carré. Vous écoutez Le Goût du Moyen-Âge, une émission des étudiantes et étudiants du Master Monde Médiévaux à l'Université de Poitiers. L'émission d'aujourd'hui portera sur l'étude archéologique des sites castraux et religieux, pluralité des axes de recherche. Nous allons nous intéresser à la céramologie, une discipline qui étudie les artefacts en terre cuite, avec notre première intervenante, Marie Desplat. Bonjour Marie, sur quoi porte précisément votre travail de master ?
Bonjour Simian, bonjour cher auditeur. Mon sujet de master porte sur les céramiques de la période médiévale et moderne qui sont découvertes dans le cadre des fouilles programmées du château du Haut-Clairvaux, qui est un château situé dans le nord de la Vienne, à proximité de Châtellerault. Mais qu'appelle-t-on céramique en archéologie ? En archéologie, on désigne sous le terme de céramique tous les objets en terre cuite, c'est-à-dire les poteries, mais aussi les tuiles ou encore les carreaux de pavement. L'étude des céramiques apporte de nombreuses informations aux archéologues. On va étudier la forme des céramiques, leur décor, leurs pattes et leur composition, les traces d'usure, le mode de fabrication, les traces de contact avec le feu. Et grâce à une étude minutieuse de ces artefacts souvent fragmentaires, on va pouvoir en déduire un certain nombre de choses. Notamment la datation, car les céramiques sont des éléments de datation de qualité grâce à l'évolution rapide des décors, des formes et donc de la morphologie des céramiques au cours des périodes historiques. C'est principalement pour cette capacité à fournir des éléments de datation fiables que les céramiques sont étudiées. Ce sont aussi des marqueurs qui nous informent sur l'évolution et les changements dans les habitudes culinaires, mais aussi des usages, des modes et des goûts des consommateurs dans les sociétés pré-industrielles. Par exemple, les lèche-frites sont des céramiques plates dont le but est de récupérer les jus et les graisses lors de la cuisson des aliments, comme les lèche-frites actuelles. Et donc l'apparition des lèche-frites au cours du Haut Moyen-Âge, dès le XIVe siècle, est un indicateur d'une évolution dans les pratiques culinaires avec la consommation de viande rôtie. On va également pouvoir déduire le niveau de vie des occupants d'un site archéologique, en particulier s'il s'agit d'une population élitaire. Par exemple, en contexte castral ou ecclésiastique, on trouvera davantage de céramique pour le service de table, avec des pichets, des cruches, des tasses, qui vont être décorées et recouvertes d'une glaçure. Tandis que dans des contextes plus modestes, le vaisselier sera plutôt composé de récipients dédiés à la batterie de cuisine, avec des céramiques du quotidien à vocation utilitaire, donc des pots à cuire, des vases de stockage. Alors les céramiques de service comme les cruches sont aussi présentes, mais elles seront beaucoup plus simples dans des contextes modestes.
Je vous remercie pour cette présentation de vos recherches, mais j'ai quand même quelques questions à vous poser. Nous avons bien compris l'intérêt de l'étude des céramiques, mais est-ce que ces céramiques que vous étudiez sont très fréquentes sur les sites archéologiques ?
Alors les céramiques sont omniprésentes dans les contextes archéologiques. C'est le type d'objet que l'on retrouve en plus grand nombre sur les sites archéologiques. Leur abondance, elle s'explique par différentes raisons. Ce sont des objets en terre cuite qui sont des objets du quotidien dont la matière première est abondante, accessible et mise en œuvre à faible coût. Mais aussi car un pot, une fois qu'il est brisé, il ne va plus être utilisé, donc on va tout simplement le jeter.
Et comment identifiez-vous la fonction d'une céramique ? Et par exemple, quelle est pour vous la différence entre une cruche et un pichet ?
Pour identifier la fonction d'une céramique, on va se baser sur plusieurs éléments. Par exemple, la présence de traces de chauffe sur la surface externe va nous permettre d'identifier que la céramique a été en contact avec le feu et donc utilisée pour la cuisson. pour la différence entre un pichet et une cruche, on va se baser sur la différence de contenance. On part du principe qu'une cruche a une contenance supérieure à 2 litres et donc que celle d'un pichet est inférieure à celle-ci.
Merci beaucoup Marie pour cette passionnante présentation de l'étude céramologique. Nous allons maintenant nous intéresser aux travaux de Louis Spineau sur le bâti religieux. Bonjour Louise, pouvez-vous nous parler de vos recherches sur les édifices religieux ?
Bonjour Simian, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je mène une étude de plusieurs édifices religieux dans le Lencloîtré et le Clairvalois. C'est un espace qui avait un rôle important au Moyen-Âge. Cette zone correspond aujourd'hui au nord du département de la Vienne, non loin du département de l'Indre-et-Loire. Cette aire géographique, à la période médiévale, se situait à la frontière entre le comté d'Anjou-Touraine et celui du Poitou. C'était alors un endroit de conflit politique entre les différentes puissances en place, notamment les comtes d'Anjou et les comtes de Poitou. Plusieurs sites importants voient alors émerger de cet espace, notamment le site castral du Haut-Clairvaux, évoqué précédemment par Marie, qui aurait été fortifié par Richard Cœur de Lion, comte de Poitou et duc d'Aquitaine, au XIIe siècle, suite à un conflit avec son frère Henri le Jeune, comte d'Anjou. Excepté la chapelle castrale du Haut-Clairvaux et le prieuré fontevriste de l'Encloître, les édifices religieux de cette zone n'ont pas été étudiés. Seulement quelques érudits du XIXe et du début du XXe siècle s'y sont légèrement penchés, ainsi que l'historien de l'art René Creuset, par exemple. La plupart de ces édifices ont été construits entre le XIe et le XIIe siècle. Ils ont été remaniés au cours des siècles, mais conservent souvent des éléments architecturaux médiévaux. Il est donc intéressant de les étudier afin de combler le manque de données sur l'histoire médiévale du Poitou. Mon corpus se compose de 10 églises. Celles de Colombier, de Doucet, de Turé, de Saint-Genès-d'Ambière, de Vendeuvre du Poitou, de L'Encloître, de Scorbé-Clairvaux, du Haut-Clairvaux, de Nintré et d'Ouzilly. Le but de mon mémoire est de comprendre la raison de l'implantation de ces édifices dans cette zone de frontière au Moyen-Âge. Pourquoi ont-elles été construites dans cette zone, par qui et comment ont-elles évolué jusqu'à aujourd'hui ? Le but est également de comprendre s'il existe un lien entre les laïcs et les religieux, si les conflits des laïcs ont une incidence sur l'implantation ou l'évolution des édifices religieux. En plus de cette étude plutôt historique, je vais produire une étude de cas sur l'église Notre-Dame de Colombier afin de faire une étude historique et archéologique plus poussée. Colombier est une église datant du XIIe ou XIIIe siècle et présente des aspects architecturaux intéressants. Elle a notamment gardé de jolis chapiteaux sculptés de la fin du XIIe siècle. Son histoire se révèle aussi passionnante. Selon certains cartulaires, l'église a appartenu à plusieurs abbayes différentes. Elle est passée dans les mains poitevines de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, puis dans les mains tourangelles de l'abbaye de Bourgueil, pour à la fin revenir en possession des Poitevins, cette fois-ci dans les mains des moines de Saint-Junien de Noyers. Elle a également subi plusieurs transformations et rénovations au cours des siècles qui sont intéressants à étudier. Pour mener mes recherches, j'ai utilisé plusieurs méthodes. Tout d'abord, j'ai utilisé celle de l'inventaire. J'ai d'abord choisi donc une aire géographique à étudier, puis une thématique, celle des édifices religieux. J'ai ensuite fait un travail de repérage afin de trouver les édifices religieux correspondant à cette aire. Pour chaque édifice, j'ai produit une étude historique en consultant la bibliographie et les sources conservées dans les bibliothèques, médiathèques, mais aussi dans les archives départementales et diocésaines. En plus de l'étude des sources écrites, j'ai effectué une étude archéologique et architecturale. Je me suis alors rendue sur place et j'ai produit une série de photographies d'ensemble et de détails pour chacune des églises et chapelles qui composent mon corpus. Grâce aux différents documents obtenus lors de mon étude historique et grâce à l'étude sur le terrain, j'ai pu produire des synthèses sur chaque édifice. Pour l'église de Colombier, j'ai mis en place la même méthode, mais de manière plus poussée. J'ai également mis en place une méthode d'étude de bâti archéologique afin de pouvoir comprendre entièrement l'architecture de l'église. Pour cette église, une photogrammétrie a été faite ainsi qu'un enregistrement complet de l'édifice. La photogrammétrie est une technique qui consiste à prendre plusieurs photographies d'un édifice, par exemple, pour par la suite pouvoir le modéliser en 3D sur ordinateur. Cette technique permet de travailler sur les murs de l'église à distance. L'enregistrement de l'édifice consiste à relever sur papier chaque élément architectural qui la compose. Je vais donner par exemple un numéro au mur nord de la première travée, puis je vais donner un autre numéro à la porte de ce même mur, etc. Par la suite, je vais pouvoir mettre en relation tous ces éléments afin de produire un phasage de l'édifice.
Merci beaucoup Louise pour cette présentation. Tu nous as parfaitement montré l'intérêt et le potentiel de l'étude de ces différents sites. Par contre, j'ai quelques questions encore à te poser. Est-ce que ces 10 édifices dont tu nous as parlé ont le même statut ? Et par exemple, est-ce qu'ils appartiennent au même propriétaire ?
Alors mon corpus donc, se compose de 6 églises priorales, de 3 églises paroissiales et d'une chapelle, qui semble avoir été une annexe de l'église paroissiale. Elles n'appartiennent donc pas au même propriétaire, bien qu'elles soient dans la même aire géographique, plusieurs appartiennent à des religieux tourangeaux, par exemple comme l'église de Doucet, qui dépend de la basilique Saint-Martin de Tours, ou encore l'église de Colombier, qui a appartenu à l'abbaye de Bourgueil. Et d'autres à des religieux poitevins, comme les églises de Vendeuvre et de Turé, qui appartiennent toutes deux aux évêques de Poitiers, ou bien l'église de Saint-Genès-d'Ambière, qui dépend de l'abbaye Saint-Jean de Montierneuf de Poitiers. Certaines églises ont également appartenu à des abbayes plus lointaines. En effet, l'église de Nintré a été un prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés de Paris, et l'église d'Ouzilly semble avoir été une possession de l'abbaye de Cluny.
Un petit peu plus tôt, tu nous as parlé de chapiteaux datant du XIIe siècle et conservés dans une des églises. Est-ce que chacune de ces édifices que tu étudies ont des traces de l'occupation médiévale encore conservées ? Et si c'est le cas, comment fais-tu pour les repérer ?
Alors, seules les églises de Saint-Genès-d'Ambière et de Nintré ont été reconstruites ou quasi reconstruites au XIXe et au XXe siècle. Toutes les autres conservent des éléments architecturaux médiévaux. On peut les repérer grâce à leur forme, notamment avec les arcs en plein cintre de l'art roman ou les arcs brisés de l'art gothique. Dans certaines églises, comme dans celle de Doucet, on peut encore apercevoir des chapiteaux sculptés datant des XIe ou XIIe siècles. Afin de reconnaître la datation de ces chapiteaux, il est nécessaire de faire des comparaisons avec d'autres édifices et de faire appel à l'histoire de l'art. À Doucet, il y a un éléphant sculpté qui peut notamment être comparé à un éléphant sculpté présent à la basilique Notre-Dame de Poitiers. Il y a aussi les peintures murales qui peuvent être significatives d'une époque. Dans la chapelle du Haut-Clairvaux, nous savons, grâce aux chercheurs du siècle dernier, qu'il y avait des peintures dans toute la chapelle. Aujourd'hui, ces peintures ont quasiment toutes disparu, mais elles semblaient dater du XVe siècle.
Merci beaucoup, Louise, pour ta présentation très riche et très claire. Nous allons maintenant nous intéresser à l'étude de Clotilde Guillot. Bonjour, Clotilde. Pouvez-vous nous présenter les différents aspects de votre étude castrale ?
Bonjour Simian, chère auditrice, chère auditeur. Le château de la Roche-Bertin est un complexe castral qui questionne tant sur sa fonction première que sur sa durée dans le temps. Il se situe dans le village actuel de Sainte-Soule en Charente-Maritime, à une dizaine de kilomètres de La Rochelle. Cette étude de cas est particulière. On suppose que le château appartenait à l'un des sénéchaux de Richard Cœur de Lion, Pierre Bertin, nommé à ce poste en 1190. Actuellement, le château est complètement recouvert par un bois. Son existence a été découverte dans les années 70. J'ai eu à cœur d'étudier l'historique de mon site pour comprendre les enjeux qui l'entourent. Dans mon corpus, j'ai des sources textuelles en latin, en ancien français, mais aussi des plans comme le cadastre napoléonien ou le plan de Claude Masse. Les sources textuelles mentionnent le toponyme de la Roche-Bertin dès 1247, qui est associé à des cultures. Cependant, elles sont muettes à propos d'une construction. Au début du XIIIe siècle, sous Jean sans Terre, Jean et Pierre Bertin, les fils du sénéchal, doivent détruire deux maisons fortes près de La Rochelle, qui ne sont pas nommées. Par sa position, on peut donc supposer que la Roche-Bertin soit l'une d'entre elles. Comme les textes ne mentionnent pas clairement le château, j'ai utilisé les cadastres napoléoniens et les anciennes cartes pour confirmer son existence. La présentation la plus ancienne remonte au XVIIe siècle sur le plan de Claude Masse, où il est représenté déjà ruiné. En effet, seuls les fossés semblent encore perceptibles dans le paysage. Toutes mes recherches m'ont mené à la conclusion suivante. Le toponyme La Roche-Bertin est associé à un hameau d'habitation, éparse et de culture qui devait être contrôlé par un château ou un domaine foncier au Moyen-Âge. À ce stade, on peut donc dire qu'il y a un château ruiné au XVIIe siècle et qu'il est antérieur à cette période. Mais on n'a pas d'éléments suffisants pour le dater avec précision. L'historiographie, qui regroupe les études anciennes déjà menées sur ce site, prend alors toute son importance. Le site que j'étudie compte quelques écrits, des rapports des années 70 et 80 et un article de 2023. L'un des principaux chercheurs qui s'est penché sur la Roche-Bertin est l'abbé Jean Métayer. Il a mené plusieurs campagnes de fouilles dans les années 70, ce qui a permis d'établir un premier plan du site. Il a mis au jour un certain nombre de maçonneries et réalisé un plan topographique détaillé de ses découvertes. Le plan met en lumière deux espaces concentriques délimités par deux fossés. En 2023, Gilles Arquet et Bruno Jean Texier ont découvert, grâce à la prospection aérienne et pédestre, un troisième fossé. Les études archéologiques du complexe castral confirment plusieurs phases d'occupation marquées par des transformations observées notamment au niveau de la porte. Ces recherches archéologiques viennent faire écho avec l'historique. En effet, suite aux fouilles de Jean Métayer, une étude céramologique a été faite par Jean Chapelot, datant des céramiques entre le XIIIe et le XIVe siècle, ce qui pourrait correspondre au texte mentionnant le toponyme La Roche-Bertin en 1247. Cette année, l'un des principaux objectifs sera de mener une campagne de fouilles qui me permettra d'approfondir les recherches des années 70 et d'apporter de nouveaux éléments de compréhension à ce château. En effet, même si on peut louer la qualité du travail de l'abbé Jean Métayer, par rapport à d'autres études de son époque, les méthodes de fouilles actuelles sont plus rigoureuses. C'est pourquoi nous allons reprendre le sondage fait au niveau de la porte d'entrée et l'étendre et ouvrir un deuxième sondage dans la haute cour à l'emplacement d'un caniveau supposé. Cette première campagne de fouilles a pour but de tester le potentiel archéologique du site et préparer la mise en place des futures campagnes plus étendues.
Merci beaucoup Clotilde. Tu nous as parlé dans ta présentation d'un texte qui mentionne l'existence, en tout cas la présence de deux châteaux, et dont un pouvait être effectivement la Roche-Bertin. Est-ce que tu as connaissance d'autres demeures élitaires qui appartiennent à ce Pierre Bertin? Et si oui, comment est-ce que tu as réussi à les découvrir et à les identifier?
Alors oui, il existe plusieurs édifices liés au Bertin, non pas à Cap Pierre Bertin, et il existe au moins quatre demeures élitaires rattachées à la famille des Bertin. Et j'ai utilisé comme principaux documents les écrits de l'abbé Métayer pour commencer mes recherches, et j'ai épluché chacune de ces sources qu'il mentionnait, et j'en ai découvert de nouvelles. Puis j'ai découvert leur emplacement un à un grâce au cadastre napoléonien, au plan de Claude Mas, etc. Les photographies aériennes, quant à elles, m'ont permis de confirmer leur existence dans notre paysage actuel, puisqu'on peut voir dans les champs les traces des fossés de ces édifices. Et si le temps me le permet, j'aimerais faire leur historique et peut-être que je trouverai des réponses sur la Roche-Bertin en faisant ceci.
Et concernant ce fameux abbé Métayer, qui a donc travaillé à la fois sur le site en réalisant des fouilles et en faisant des recherches historiques, quelle méthodologie est-ce que tu as pu mettre en place pour réétudier et reprendre un petit peu les recherches où elles s'étaient arrêtées?
En voulant réétudier les anciennes fouilles, j'ai commencé par trouver les sondages documentés et non documentés. Les sondages documentés comportent une zone de fouille placée dans une réalité spatiale avec des croquis et une description stratigraphique brève. Ces sondages-là vont être approfondis puisque l'on sait où ils se situent, tandis que les autres vont faire l'objet d'une prospection et d'un jeu habile avec la boussole pour les retrouver et les replacer correctement.
Merci beaucoup Clotilde pour ta présentation très précise de tes recherches. Vos différentes études montrent parfaitement la pluralité des axes de recherche et vos différents sujets, que ce soit la céramique médiévale, les sites religieux et un château en Charente-Maritime, témoignent à merveille du potentiel et de l'intérêt des études archéologiques. Je remercie les auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés et nous nous donnons rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast qui vous donnera le goût du Moyen-Âge.